Ne pas manquer les lundis, mercredis et vendredis à 8h, Capsule Info, CFLX.
Conditions actuelles, 29 degrés.
CFLX, une radio pas pire pantoute, en Estrie.
Les vieilles chansons, qui tournent en rond. Les vieilles chansons, qui tournent en rond.
Ces vieilles chansons qui tournent en rond. Alors, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus écoutée et de la plus grande radio communautaire qui sévit en Estrie. Et évidemment, je parle de la radio CFLX que vous pouvez syntoniser sur la bande FM 95.5, une radio que vous pouvez aussi écouter en direct à partir de son site web au www.cflx.qc.ca, où, en plus de nous écouter en direct, vous pouvez aussi écouter là où et quand bon vous semble vos émissions préférées, c'est-à-dire toutes les émissions de CFLX grâce à la magnifique technologie des podcasts. Alors avec vous, au micro, en ce magnifique 1er juillet 2026, où la rue Wellington Nord est très animée, se met dans ses plus beaux atours sur son 36 pour recevoir des foules dans le cadre du Festi-Blues qui va commencer, je pense, dès demain. Une journée très chaude qui va n'en faire suer quelques-uns qui vont déménager aujourd'hui, alors que évidemment le 1er juillet est la fameuse journée du déménagement au Québec. On va d'ailleurs en discuter avec notre invité, à savoir d'où ça vient, ça, une journée du déménagement? C'est une bonne idée? C'est une pas bonne idée? Enfin, bref, on vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que peu importe si vous travaillez fort ou pas, il faut s'hydrater, alors que la température ressentie va aller là au-dessus des 40 degrés Celsius. On vous veut en forme, et pour ça, ça prend de l'eau. Alors, vous m'aurez probablement reconnu, ou du moins, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, je ne vous en voudrai pas. Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, qui sont les deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexions. Une émission qui leur permet d'assumer leur rôle notamment d'éducation populaire, c'est-à-dire de discuter d'enjeux auxquels font face les citoyens de Sherbrooke, les Estriens, les Estriennes, voire les Québécoises et les Québécois, sinon l'ensemble de la population mondiale. Pourquoi? Mais pour vous aider à réfléchir, pour voir en quoi, pour vous permettre de mieux comprendre finalement ce qui peut arriver dans toutes sortes de sujets. Et aujourd'hui, nous discuterons d'un enjeu de taille au Québec. Hein. On en parle évidemment beaucoup depuis quelques années, une fameuse crise du logement qui affecterait désormais l'ensemble des villes québécoises, ou du moins les très grandes villes, dont Sherbrooke. Du moins, c'est ce qu'on va on va en discuter avec un invité de marque, soit Monsieur Mario Mercier, qui est porte-parole de l'Association des locataires de l'Estrie, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre humble invitation, alors que c'est quelque chose qui touche tout le monde, hein, que l'on soit propriétaire ou locataire, le fait d'avoir un toit est un élément fondamental du bien-être de toute personne. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas en mesure d'avoir un toit au-dessus de leur tête, et c'est franchement une condition qui entraîne toutes sortes de problèmes, voire même qui peut entraîner éventuellement la mort. Et c'est donc un enjeu de taille. Est-ce que ce serait le droit au logement un droit éventuellement constitutionnalisé? Il y a, comment dire, d'intense débat sur la question. Alors, c'est le genre de choses qu'on discutera aujourd'hui avec Monsieur Mercier. Mais tout de suite, avant de parler avec Monsieur Mercier, on va aller en chanson avec, vous connaissez là, notre truc, là, on aime bien être thématique là, dans nos choix. Et bon, ça a l'air de rien, mais il y a des chansons qui traitent de l'habitation ou du déménagement. La première est sortie du répertoire d'un des groupes fétiches de l'émission, et non, ce n'est pas les Locaux Locasses, mais c'est plutôt les Cowboys Fringants avec leur chanson « Les maisons toutes pareilles ».
J'ai mon 5000 pieds carrés, la grosse piole dans un quartier, flat comme le fond d'une bouteille, où les maisons sont toutes pareilles. Les symptômes prémensuels d'une faillite trop personnelle, un set d'outdooring dans le salon, la pancarte avance sur le gazon. J'ai une ex-femme qui m'en veut, les enfants une semaine sur deux, puis un psy vraiment trop classe qui m'écoute, me plaint pour 100$, sûr que je ferai broyer personne, avec le spleen des pays riches, dans une ère qui distorsionne, c'est tout le monde qui a le bonheur qui criche. Mais dès que le jour s'éveille, sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Oh, et comme des milliards d'humains, je me ferai croire que tout va bien, tant que se lèvera le soleil, sur les maisons toutes pareilles. Pratique le semblant de rien, et je donne mon accord tacite au triomphe d'un monde qui s'effrite. Climat fucked up, écocide, c'est donc ben plate d'être lucide. Je préfère mettre la switch off en attendant la catastrophe. Mais que le jour s'éveille sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Wow. Et croire que tout va bien tant que se lèvera le soleil sur les maisons toutes pareilles. Wow, 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 wow. Quand la nuit borde le soleil dans les maisons toutes pareilles, puis que je suis tout seul dans mon froc, face à face avec mon époque. Je l'entends le glas qui sonne, et c'est pas vrai que je m'en contrefiche, dans une ère qui distorsionne, si tout le monde qui a le bonheur qui griche. Mais dès que le jour s'éveille, sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Croire que tout va bien tant que se lèvera le soleil sur les maisons toutes pareilles.
Alors, le jour du déménagement au Québec, où la plupart des baux de logements locatifs se terminent au 30 juin, ce qui signifie que de nombreux locataires déménagent le 1er juillet, de moins en moins, mais quand même, cette tradition de déménager à date fixe remonte imaginez-vous, à la Nouvelle-France, en raison des coutumes juridiques françaises. Et, en effet, là, on avait mis ça, entre autres, pour pas que les gens puissent être expulsés en plein hiver. Hein. Ça fait que ce qui était pas illogique, quand même. Là. Les lois en matière, en cette matière, ont persisté jusqu'en 1973. Et bien qu'il ne s'agit plus d'une obligation hein, de faire des baux du 1er juillet au 1er juillet au 30 juin, ça reste une pratique très répandue. Pour discuter de cette journée du déménagement, je l'ai dit en début d'émission, on a le bonheur d'accueillir M. Mario Mercier, qui est porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke. M. Mercier est originaire de Gagnonville et comme plusieurs, il est venu s'installer à Sherbrooke pour les études. Il a étudié au cégep de Sherbrooke, de même qu'à l'Université de Sherbrooke, où il a notamment étudié en droit, qui lui permet de se qualifier de juriste, bien qu'il n'utilise jamais le terme de maître, n'ayant pas fait son école.
Ben, je veux dire, n'ayant pas...
On l'a pas complété, l'école du barreau, c'est ça?
J'ai complété l'école du barreau, je n'ai pas fait mon stage.
Ah voilà, c'est le stage qui manquait.
Et ne pratiquant pas le métier, ça coûte cher s'inscrire au barreau. Là.
On s'entend. Il est porte-parole de l'association depuis 2023 et un organisme à but non lucratif dans lequel il a été aussi impliqué à titre de vice-président entre 2015 et 2014. Ben d'abord, Monsieur Mercier, permettez-moi au nom de toute l'équipe de la Société nationale de droit collectif de CFLX, je dirais dire des équipes de ces organismes, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre invitation, alors qu'on trouvait important, de profiter de ce 1er juillet 2026 pour parler d'un enjeu fondamental, là, soit celui du logement ou de l'habitation, de manière générale. Mais juste avant, là, ce qui est fun avec ces entrevues-là, là, c'est que c'est des entrevues de fond. Vous n'êtes pas obligé de résumer votre propos en 30 secondes. Alors, si vous voulez bien, là, on va dresser la table tranquillement, pas vite. Vous travaillez pour l'Association des locataires. Depuis quand existe cette association? C'est quoi son rôle, sa mission? Puis, bref, comment qu'elle aide les locataires? On veut tout savoir, M. Mercier.
L'organisme existe depuis 1979.
Oh! OK. 21 plus 26, ça fait bientôt 50 ans?
Oui. C'est un organisme qui, à l'origine, s'appelait l'Association des locataires du nord de Sherbrooke.
OK.
À l'époque, ils voulaient créer un peu, sur le modèle montréalais, des associations de quartier un peu partout dans la...
Dans la ville.
Et ben les visions, les premières visions ont été finalement en 82, c'est devenu l'Association des locataires de Sherbrooke.
D'accord.
On est né dans la même période qu'est apparu beaucoup de coopératives dans Sherbrooke. Là.
Oui.
Le mouvement coopératif était
En pleine effervescence.
Oui, et tu sais, l'association des locataires, ben on disait, avant que tout le monde ait une coopérative, là, il reste un marché privé. Puis à l'époque, c'était beaucoup lié à la défense des droits. Donc, et on a vu naître, entre autres, la régie du logement.
Dans la foulée.
Oui. Et dans le temps, on voyait ça comme une bonne chose. Aujourd'hui, on peut avoir des critiques très particulières par rapport au travail un peu médiocre et un peu... moi, je dis que le droit qu'on pratique à ce tribunal-là, c'est pas celui qu'on a pris à l'école.
OK, on va en parler.
Mais oui, c'est
les
ça.
Choses ont le mérite d'être claires.
Oui, mais à l'époque, c'est un peu comme disait La Fontaine, entre les faibles et les forts, la loi, la liberté opprime et la loi libère. Ça fait qu'on se réjouissait de la disparition. On l'espérait, là, on l'a vu revenir, mais de l'arbitraire en logement.
Et du libre marché sans contrainte.
Sans aucune contrainte.
Oui.
Puis on s'est vu à l'époque comme les gardes les chiens de garde de l'institution qui était la régie du logement, qui est aujourd'hui le tribunal administratif du logement.
Oui.
Entre autres, au début, on devait contrôler le logement, puis ils nous proposaient des 10 % d'augmentation par année. Ben là, on est revenu à quelque chose qui ressemble à ça, mais à l'époque, nous, on a fait la campagne des pintes de lait.
Okay.
2 % de gras, 2 % d'augmentation, ça nous paraissait logique.
Et mais ça devait être difficile parce que si je me rappelle bien, dans le fond, tournant des années 80, choc pétrolier, crise tarifaire, les taux d'intérêt là étaient autour de 12, 13, 14 % pour acheter des maisons. C'était quelque chose là à ce moment-là.
Je dis ça au niveau politique parce que on a voulu, parce que pour nous, le logement, c'est quelque chose de politique.
Oui.
On voyait les maisons toutes pareilles.
Ouais.
On parle beaucoup de la classe moyenne, des travailleurs dans cette situation-là. Ils sont touchés actuellement avec la crise du logement, mais si la classe moyenne est touchée, il faut penser que les groupes plus démunis le sont encore plus.
Mm-hmm.
Et la possibilité de se retrouver à la rue est dans la tête, dans l'imaginaire de tous les locataires. Même s'il existe une loi, il existe même actuellement un moratoire sur les rénovations, on peut utiliser les animaux, les dégâts d'eau, l'insalubrité pour tenter de pousser les gens à la rue. Et en gros, on parlait des déménagements, mais les locataires qui sont plus pauvres tentent de s'agripper au déménagement. Au début, là, on leur disait, si votre endroit est salubre, ne déménagez pas. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ces slogans-là. Les gens savent très bien que déménager sans avoir un besoin, c'est dangereux. C'est dangereux pour leur santé, c'est dangereux pour leur portefeuille. Puis, par tous les moyens, ils s'agrippent à l'endroit où ils restent.
Oui, ben je le vois. Hein. Moi-même, je suis propriétaire d'immeubles. J'ai quelques portes, puis effectivement, le taux de roulement là a chuté de manière importante. Les difficultés aussi de louer l'appartement. Hein. Auparavant, je pouvais faire plusieurs visites avant de finalement louer mes appartements. Aujourd'hui, une, deux, trois visites, puis c'est réglé. Il faut dire que j'ai eu le bonheur d'acheter mes appartements avant la crise pandémique, donc j'ai pas à imposer des loyers incroyables là, aux locataires. Donc bref, votre mission est d'abord et avant tout de soutenir ou de défendre les droits des locataires.
Oui, c'est justement le droit, c'est que pour nous, il faut fixer droit au logement en opposition à privilège. Si tu
oui.
peux plus, si la question financière prend une place tellement importante, le droit à rester dans un endroit deviendrait lié beaucoup complètement au portefeuille. On pense aussi que on s'oppose droit au logement à marchandises. Dans le milieu, il y a tout un courant, malheureusement majoritaire chez nos politiciens, qui voient le logement comme une marchandise, comme un moyen de faire un profit, et dans certains cas, faire un profit qui est abstrait à peu près toutes les règles. Ça fait que c'est donc pour nous, c'était une chose importante. Et dans l'histoire, il existait à Sherbrooke, on était membre fondateur du RECLAC, l'Association des locataires, et il y avait un groupe qui était membre fondateur du FRAPRU. Donc, à Sherbrooke, on était le chose. Quand l'accent a mis la clé dans la porte, nous, on a repris le flambeau du logement social et, plus dernièrement, de la socialisation du logement. Il y a comme un concept, là, que le logement social va se développer plus âprement, puis les problèmes vont se régler. Nous, on pense que si on veut régler le problème de la sécurité des femmes, il faut qu'il y ait un développement important d'un logement accessible financièrement, puis dans pratique, là.
Très intéressant. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir l'occasion d'en parler. Puis effectivement, j'ai participé à un balado produit par Jean-François Hamel, je pense.
Vachon.
Jean-François Vachon, dans lequel j'expliquais qu'effectivement, dans le fond, moi j'ai commencé à investir en 2015 et il y a eu ce que j'appelle une financiarisation du logement. Ouais. C'est-à-dire que, dans le fond, les gens, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, probablement de mauvaises, disent « ben moi, je veux faire autant de profit avec mes investissements immobiliers que j'en fais, par exemple, si je place l'argent à la bourse ».
Ouais.
Et donc, puis sans parler là, du fait que les gens ont acheté à des prix de fou. Or, si tu achètes un prix de fou, ben t'es comme obligé d'augmenter tes loyers. Mais là, c'est toi le responsable de cette histoire, ouais. C'est pas les locataires. Enfin, bref,
ouais,
on ferme la parenthèse. Maintenant que les auditrices et les auditeurs ont une meilleure idée de l'importance de votre organisme, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette fameuse journée du 1er juillet, là? Pourquoi beaucoup de Québécois et de Québécoises, je l'ai dit rapidement, mais j'aimerais que vous en parliez davantage, pourquoi beaucoup déménagent à cette date? C'est quoi l'impact d'avoir une telle échéance annuelle pour les locataires? Bref, une journée officielle du déménagement, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée?
Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée.
Ouais.
Entre autres... J'ai fait le métier de déménageur.
Oui, ça coûte cher, les déménageurs, oui. Le 1er juillet.
Oui, s'ils regardent des belles factures, là, il y a combien de gens qui peuvent se payer 1 500, 2 000 piastres pour déménager leurs choses?
Ouais.
C'est sûr que si tu as un piano, moi, je pense que tu es mieux de faire venir des déménageurs que tu as retrouvé à l'hôpital en morceaux. Puis avec ton meuble en bonne sécurité, mais en soi, les prix hors saison forte sont déjà suffisamment élevés pour avoir une industrie qui serait rentable. On n'aurait pas besoin de cette rareté. Parce que dans la période de déménagement, là, tout est loué, y compris les camions, les voitures, les remorques, les compagnies qui ont des camions le prêtent à leurs employés. C'est vraiment folie furieuse.
C'est Noël. C'est un peu comme les compagnies pétrolières qui haussent le prix de l'essence au début des vacances. Là,
oui,
ils en profitent, là, mettons.
Ou quand il y a une crise au Moyen-Orient. Ils l'ont acheté à un prix, mais comme il y a une rareté, ils le vendent deux fois et demi, puis ça aide à la rentabilité.
Donc, le phénomène de rareté des ressources nécessaires au déménagement, ça a un impact direct sur les locataires. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que les gens vivent par rapport au fait d'avoir une journée officielle du déménagement, de guillemets?
Oui, bien, c'est utile dans certains cas, dans le sens qu'on cherche... au moment où les logements, les gens renouvellent leur beau, on cherche... ça synchronise les choses.
Oui.
Sauf que tu parlais du Code civil. Avant le Code civil, c'était la coutume de Paris. C'était le Code civil. Puis ça a déjà été le mois de mai. Le 1er mai, qui était la date fatidique, après, justement...
L'hiver.
Et c'est une réalité qui est un peu la nôtre. Moi, je pense qu'il y aurait moyen de trouver des solutions à cette date fatidique. Mais... je l'ai pas trouvé en temps. je pense pas que c'est une bonne chose, mais changer la façon de faire, c'est des fois très difficile. On rentre dans un paradigme, on dit c'est tellement ça que ça peut pas être autre chose. Mais moi, je pense que ça devrait être autre chose.
Quelle belle mise en bouche, Monsieur Mercier. Merci beaucoup pour ces quelques réponses. Maintenant, on va aller en chanson. Avec une chanson de La Bolduc. Et on l'a fini par la trouver, Monsieur Mercier. Et le titre de la chanson, c'est « Le propriétaire ». Alors, on se retrouve tout de suite à la conclusion de cette pause publicitaire, de cette pause musicale.
les un peu prioritaires, ça c'était une brocomère. Ils venaient écornisser près de la maison à la journée. Quand ils voyaient quelqu'un rentrer, ils venaient sentir dans l'escalier. Si je balayais ma galerie, c'était pas long qui était sorti. Quand mon mari fend du bois, il nous crie d'arrêter ça. Si ma fille joue du piano, il se m'a cogné sur le tuyau. Quand je pratique mes chansons et que je joue du violon, il me crie d'attendre le soir avec le chat fermé qu'on serre. Tentez d'une dans les tignons, tentez d'une dans les tignons, tentez d'une dans les tignons, tentez d'une dans les tignons. Quand le boulanger vient sonner, lui et sa femme viennent regarder. Si ça lui prend ben du temps pour délivrer un petit bébé blanc. Quand je fais venir des liqueurs, ça l'étreint ben de pas savoir si c'est de la bière ou du porteur ou ben du vin des guêtres noires. Tentez d'une dans les tunderlis, tentez d'une dans les tulums. Tentez d'une dans les tunderlis, tentez d'une dans les tulums. Pas de ses affaires, ce que peut manger au bien boué. Il n'y a qu'à voir ce qu'on envoie par les tuyaux des cabinets. Mon propriétaire est bien curieux, il y a un trou, il se met les yeux. À part de ça, il y a le nez si fin qui sait toujours quand je prends mon bain. Tentez d'une dans les tunderlis, tentez d'une dans les tunderlis, tentez d'une dans les tunderlis, tentez d'une dans les tunderlis. D'un peu près, il était comme ça. Je vous dis que ça m'énerve pas. Je m'en vais faire assez souffrir qu'il va être obligé de partir. Je vous dis qu'au bout d'un an, il va avoir les cheveux blancs. Je vais le faire arracher tellement qu'il va falloir qu'il se tape le camp. Tentez d'une dans les tintarlis, tentez d'une dans les tintarlis, tentez d'une dans les tintarlis, tentez d'une dans les tintarlis.
Alors, c'était la Bolduc et la chanson Le Propriétaire qui image encore un concept toujours en vogue en ce 21e siècle, celui des classes sociales. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions où on a le bonheur de recevoir en ce mercredi 1er juillet 2026 Monsieur Mario Mercier, porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke. Monsieur Mercier, comment décririez-vous le statut actuel du logement locatif à Sherbrooke et en Estrie? Ou, dit autrement, est-ce qu'on y connaît dans la région une crise aussi importante que celle dont on entend parler dans les autres villes, telles que Montréal?
Oui. Je pense qu'on a rattrapé Montréal.
Oh!
Et d'autres villes sont sur le point d'attraper. On voit l'itinérance, entre autres, à Poaticook, à Richemont. J'ai vu
le
bord de la 143 à Valcourt. Puis Granby, c'est un cataclysme. Là. C'est pire encore que Sherbrooke. Puis ça s'est détérioré très rapidement. Je pense qu'il faut regarder la chose en deux temps. Le gouvernement a considéré que la crise du logement, c'était une crise de pénurie de logement.
Mm-hmm.
Et mis...
Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a 100 000 logements non occupés au Québec.
Oui, il y a 100 000 logements non occupés. En 3 ans, l'itinérance au Québec a doublé. Sherbrooke, par exemple, avait un taux de vacances autour de... C'était 1,9, 1,3, puis on est rendu à 2,7, presque à l'équilibre. Donc,
Pour vous, l'équilibre, c'est un taux de vacances d'environ combien?
3 %. Ou à peu près le nombre de gens. Ça fait que, théoriquement, si on regarde, pour une partie, il fallait que les gens se logent. Donc, le gouvernement a réglé, je pense, une partie des problèmes pour ceux qui avaient beaucoup d'argent et que le signal économique n'était pas important dans le fait, peu importe le prix, je vais habiter quelque part. Mon revenu pour les classes les plus élevées a beaucoup augmenté. Ça fait que si je suis de... Je suis parent avec M. Legault, ces gens, les personnes qu'il côtoie, les gens qu'il visite. La question du logement, c'est réglé. Mais si on regarde les couches les plus pauvres, c'est devenu l'enfer.
Mm-hmm.
Et donc, la situation est devenue catastrophique. Et je pense que tellement que c'est devenu une question politique, c'est devenu, je pense, une question de classe. Pour les gens les plus pauvres, la crise du logement, c'est une catastrophe. Pour les gens les plus riches, c'est une situation...
Une opportunité.
C'est une opportunité puis une situation qui est réglée pour eux.
Ouais. Donc, autrement dit, puis on va conclure sur ça juste avant d'aller en pause, pause publicitaire, on comprend qu'il y a, oui, une crise du logement, mais qu'il ne faut pas y voir derrière ces mots une crise liée à une pénurie de logements, mais plutôt une crise à la capacité des gens de se payer les loyers qui sont disponibles.
Ouais, exactement.
Très intéressant. Vous le savez, même si on est une radio communautaire, on a quand même quelques petits publicitaires. On va prendre une pause de 90 secondes. Tout ce que vous avez besoin pour aller vous chercher un verre d'eau afin de vous hydrater. Faites un peu là, comme ils font en Coupe du Monde. Là, ils coupent maintenant les demi avec des pauses hydro-publicitaires qu'ils appellent. Ben, faites ça. Une pause hydro-publicitaire pour aller vous chercher un verre d'eau en cette journée très, très chaude. Et on vous revient tout de suite après cette courte pause.
Il est midi.
31 minutes.
T'as reçu des fleurs.
Des fleurs?
Ben oui, regarde, il y a un petit mot aussi.
Félicitations, M. Pépin. On apprécie ce que vous faites. Merci de planter vos arbres loin des fils électriques. Votre cour est très belle, bravo.
Donc, ça vient de qui?
C'est signé Hydro-Québec.
Planter ses arbres loin des fils électriques pour éviter des pannes, ça mérite des fleurs.
Ici Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke. C'est la fête du Canada. C'est un moment de célébration pour fêter notre pays, sa grandeur, ses paysages et sa culture. À tous les Canadiennes et les Canadiens, profitez de cette journée pour vous rassembler, lancer la saison des barbecues entre amis et participer aux festivités du Parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Bonne fête du Canada à toutes et tous!
L'Auto-Québec présente la fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. Du 14 au 19 juillet, voyez plus de 50 spectacles, dont Marimé, Alicia Moffett, Claudia Bouvette, Freds et Émile Bilodeau. C'est un rendez-vous au Parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. Billets au fêtesdulacdesnations.com. En collaboration avec Bell, SAQ, Bud Light, Audi Sherbrooke, Desjardins, la Ville de Sherbrooke et le gouvernement du Canada.
Pas si pire pantoute. CFLX 95.5 FM.
Ça, c'est la partie.
Bon, bonjour, de retour. Vous nous avez entendu discuter là, normalement. Vous avez eu droit comme un bloopers là, de notre émission. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions durant laquelle nous discutons d'habitation, de logement avec M. Mario Mercier, porte-parole de l'association. M. Mercier, au cours des dernières années, là, on parlait de ça juste à la pause, là, de nombreux projets de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale afin de réformer, entre guillemets, le régime de l'habitation, de la location résidentielle au Québec, dont notamment le projet de loi 31 intitulé « Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation ». Est-ce que vous accepteriez de nous expliquer quels ont été les principaux changements apportés par cette loi et leur impact sur les locataires?
OK. Rapidement, la loi 31, ce qu'on a appelé, c'était la cession de bail qui était la proposition la plus connue.
Ouais. Donc, rendre plus compliqué la cession de bail.
Oui. C'est que la cession de bail va disparaître dans les faits. Pour les locataires, c'est qu'on fait les démarches pour faire une cession de bail. Si on refuse, on a le droit de refuser sans motif, mais ça met fin au bail. Donc, la cession de bail a plus ou moins disparu dans son essence officielle de céder ton bail à quelqu'un et est devenue une façon de mettre fin à son bail quand on déménage puis quand on est pris à la gorge puis on ne veut pas se retrouver avec deux loyers. Aussi, la loi 31, c'était une loi fourre-tout. Ça devait être la dernière loi qui permette, là, entre autres, ôter les référendums des municipalités.
Mon Dieu, ça n'avait rien à voir, là. On est loin de l'habitation, là.
C'est que si on veut construire, puis la démocratie nous agace, ben on passe à côté. dans le sens qu'il y a urgence de construire, puis on peut construire, on donne aux municipalités le fait que ben, la population, si elle critique trop, ben là, c'est urgent. C'est urgent de construire. Il y a aussi le mandat de représentation. On a comme fait notre deuil du fait que les avocats pouvaient faire du droit au logement. On permet à quelqu'un de plus instruit, contre énumération ou n'importe quoi, de pouvoir représenter quelqu'un au tribunal administratif du logement.
Ce qui n'est plus possible?
Ce qui est d'autant plus possible. Avant,
ah oui?
Avant, c'était...
Il n'y avait que les avocats. OK, OK, OK.
Il n'y avait que les avocats.
Ou la personne elle-même.
Ou la personne elle-même, ou si elle était gravement malade, des problèmes d'éducation, tout ça, elle pouvait, sur preuve de son médecin, pouvoir être représentée à titre gratuit. C'est que maintenant, avec le mandat de représentation, c'est n'importe qui n'est pas, qui n'a pas été démis pour inconduite, entre autres par le barreau, et peut représenter quelqu'un à titre gratuit ou non. Puis la loi dit toute personne.
Donc, l'association pourrait le faire.
L'association, je l'ai personnellement fait dans un cas d'éviction illégale. Fait que c'est ouvert parce que le gouvernement a fait son deuil. Il n'y avait plus personne comme avocat qui représentait, entre autres, les locataires, un peu plus les propriétaires, parce que personne n'avait la capacité, puis l'aide juridique, bien, ça ne couvrait pas, puis là, on pouvait être représenté que dans certains cas. Si tu étais en demande, puis tu demandais des sous, plus qu'un certain montant, tout ça, c'était plus le droit au maintien dans les lieux qui était couvert par le panier de services. Fait que c'était relativement restreint. Et le gouvernement en a fait son deuil, qui représente, selon moi, une constatation que rien ne va au niveau de la représentation et le droit des locataires, y compris des propriétaires, parce que les délais sont immenses à se défendre.
Donc, dans ce projet de loi-là, il n'y avait pas que du mauvais pour les locataires. Là, la cession de bail, c'était une... l'a rendu plus compliqué, voire l'a éliminé, comme vous dites, ce qui rend, complique la vie des locataires éventuels, mais il y a eu des gains.
Bien, il y a eu des gains. Je pense qu'en général, il y a eu des gains parce que, dans pratique, là, je pense que c'était très compliqué, la cession de bail. Et les propriétaires disaient ça a permis de comprendre l'idéologie de la CAQ en logement. Si vous voulez décider qui est locataire, devenez promoteur immobilier. C'était la réponse de la ministre à l'époque, qui montre un certain mépris. C'est ça que les gens ont retenu. Mais il n'y avait pas que du bien, mais ça devait régler le problème. La loi 31 devait mettre le couvercle sur tous les problèmes et est arrivée la loi 61.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas réglé tous les problèmes et un autre projet de loi est arrivé qui, lui, visait l'élargissement de la fameuse loi Françoise David adoptée à l'unanimité en 2016 qui a été finalement renforcée en 2024 là, par la loi limitant le droit d'éviction des locataires et renforçant la protection des locataires aînés. Est-ce que, bien que cette loi n'est en vigueur que depuis 2 ans, M. Mercier, est-ce que votre association a déjà été en mesure de percevoir certains effets générés par celle-ci?
Bien, nous, contrairement peut-être à Québec solidaire, on ne pense pas qu'on doit caractériser les locataires. C'est aussi grave pour un étudiant ou une famille qui soit jeune, un jeune couple, de se faire mettre à la rue que pour une personne âgée.
Je ne vous contredirai pas là-dessus.
Les personnes âgées, par contre, vivent une problématique qui leur est propre. Ils restent depuis longtemps au même endroit, puis quand ils se font déraciner, c'est peut-être même leur vie, au moins morale, puis peut-être même physique, pour être mis en danger.
Ben absolument, on dit qu'il ne faut jamais déraciner un vieil arbre.
Ouais. Fait que je trouve... personnellement, que c'était beaucoup très politique. Bon, les personnes âgées, c'est la bonne presse. qu'on s'occupe particulièrement d'eux. J'ai rien contre ça. Il faut que le logement, on s'occupe de tout le monde.
Ouais.
Ouais, et puis, tout le monde, ça veut dire aussi les personnes âgées.
Oui, ça les inclut, là.
Puis,
on est inclusif, là.
Je suis pas un partisan de l'âgisme parce que, à l'âge où je suis rendu, je me... Bon, c'est cela étant, c'est que ça a une application relative. On a doublé à peu près le bassin de gens qui étaient couverts par cette protection-là.
OK.
Fait qu'on peut pas...
On peut pas s'en plaindre.
On peut pas s'en plaindre. Sauf que je pense que la partie la plus importante de cette loi-là, c'est plus le moratoire sur des rénovations, le moratoire sur des changements d'affectation.
Oui.
La loi dit, malgré l'article 1959, dorénavant, du 6 juin jusqu'au 6 juin l'année prochaine, il est interdit de mettre un locataire dehors pour faire des changements, agrandir, rapetisser.
C'est un moratoire qui est encore en vigueur, M. Mercier?
Oui, qui est en vigueur jusqu'à l'année prochaine. Et ça va être un débat. Nous, on va parler brièvement tantôt de la campagne électorale. On fait tellement pas confiance aux politiciens qu'on pense qu'aussitôt qu'ils vont être élus, peu importe qui est élu, on va avoir une bataille pour...
Une bataille à mener.
C'est pas vrai que la situation s'est améliorée parce que les gens, dans les logements qui sont abordables, véritablement accessibles financièrement, il y a un taux de vacance de zéro. C'est ça, il y en a pas. Ça fait que qu'on sous prétexte d'une lubie gouvernementale, comme de quoi on atteindrait le point d'équilibre, on trouverait complètement illogique qu'on ôte le moratoire puis qu'on le prolonge pas.
Je suis bien d'accord avec vous. Ce sera une autre bataille à mener à compter du... pas mal après le 5 octobre prochain.
À la veille des fêtes.
Oui, exactement. Si vous le voulez bien, messieurs, merci. On va laisser les méninges de nos auditeurs et de nos auditrices se reposer un peu grâce à une chanson de Pauline Julien. Elle aussi, elle est très thématique, très intéressante et intitulée « Déménager ou rester là ».
Mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi, y voir, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort, si on veut pas rester dehors. C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varathane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac. Ça sert à rien de laver le plancher, la poussière esprit dans les crânes. J'ai de l'air mal propre à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. C'est bien trop grand, un 8,5, depuis qu'il y a des enfants de partie. Quand on a des pièces à rien faire, on vient qu'on se sent étrangère. Puis y a toute l'huile qu'on brûle pour ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le stéréo de la gang d'en haut est toujours ouvert au coton. Plus il est tard, plus c'est écho. S'enterre ma télévision. Plus ça joue fort, plus ils aiment ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là.
démoli de lourds bords de la rue pour faire un bloc appartement. C'était plein d'arbres, il en reste plus, sont morts étouffés dans le ciment. Sa bouche l'a vu à part de sang. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le voisin faisait des colères quand mes deux chats, à l'occasion, creusaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Mais on a trois grands lavabos et deux chats si grands comme la porte. Mais on est voisins du métro. Bon, ça va bien quand il faut qu'on sorte. Mais on paye pas pour la taxe d'eau, seulement l'hydro pis le téléphone. Mais le chauffage fait pas défaut, tous les calorifères fonctionnent. Mais on a beaucoup trop d'affaires pour s'en aller dans un cocon. Mais l'été, j'aime ça, prendre l'air, tranquille, tout seul sur mon balcon. Peut-être qu'ailleurs, j'aimerais moins ça. Je sais pas si je veux déménager ou rester là.
Déménager ou rester là, je pense que ce n'est plus vraiment la question qui se pose, mais plutôt comment je peux faire pour rester chez nous, parce que si oui. Je suis obligé de déménager, ce sera pas facile. On parlait des coûts liés au déménagement, mais c'est surtout aussi souvent lorsqu'on a un appartement depuis très longtemps, le marché évolué, souvent à la hausse beaucoup plus que les hausses de loyers qui ont pu être imposées au cours de ces années, si bien que lorsqu'on est obligé de déménager, ben on est obligé de diminuer la qualité du logement dans lequel on vit pour le même prix, alors que c'est souvent une réalité très malheureuse. Selon vous, Monsieur Mercier, porte-parole de la Société d'habitation des locataires, l'Association des locataires de Sherbrooke.
Ça, c'est c'est d'un de nos soutiens financiers.
C'est bon. Désolé, là, je me suis... Mon cerveau, j'ai une bulle au cerveau. Est-ce que, dans le fond, selon vous, et alors qu'on parlait des lois auparavant, la loi 31, la loi 61, qui ont été présentées notamment afin de répondre à la crise du logement actuel, mais est-ce que ces réformes d'habitation, selon vous, ont eu un effet positif sur la crise, qui est moins une crise, de disponibilité de logement, mais plutôt une crise du revenu que ça prend pour se payer les logements? Puis, de manière générale, que pensez-vous des mesures existantes ou non existantes, prises ou non prises, présentement par les gouvernements pour contrer ou pour, lutter contre la crise du logement?
Moi, je pense que c'est important, la loi, mais ça passe à côté de ça. Je pense que la principale solution, c'est le logement social.
De bâtir des logements sociaux.
Oui, et puis le terme vraiment de logement social, on parle de hors-marché, on parle de logement intermédiaire qui serait plus cher que le logement. Puis finalement, il y a comme une espèce de langage, d'évolution du langage qui est négatif. En réalité, on essaye de noyer le poisson et de plus dire ce que il est la vérité. Le gouvernement n'intervient pas pour aider la crise du logement, ne veut pas investir et donc il se tourne vers tout le monde autour. Ce serait bien que les banques prennent la place du gouvernement. Ça veut dire que les banques, ils vont demander un rendement. Et que si dans votre groupe là, de logements, par une association HLM, il y a une petite partie de logements hyper chers, les banques vont trouver ça intéressant de financer. Puis là, tu te retrouves avec des logements, si le logement moyen est à 1 000, Si on ajoute un 50 %, ben trois pièces, ça va être 1 500 dans ces endroits-là. Ça va être 2 000 bientôt, puis 2 500 par après. Plus cher que le marché. Ça fait que ces situations-là créent un contexte où les gens plus pauvres ne peuvent pas. Le mot « abordable », c'est quelque chose qui devrait être ôté du vocabulaire. Mm-hmm. Ce qui est abordable pour quelqu'un qui vit en chambre, puis ce qui est abordable pour un médecin, c'est pas la même chose.
D'où l'utilisation du terme « logement social ».
Oui, puis on veut noyer complètement, on arrête, je sais que les coopératives parlaient de logement communautaire, social et communautaire, c'est correct. Eux avaient des petites divergences sur le montant qu'on devrait, mais entre autres, on a eu aussi, je pense, ce qui était maintenant aboli. On voulait obliger les coopératives à prendre n'importe qui sur une liste. Et c'est pas n'importe qui. Pas dans une coopérative, là, tu prends un engagement, tu deviens bénévole, tu fais des réparations, tu t'occupes du jardin, tu t'occupes de la cour, tu fais la plomberie.
Donc, autrement dit, parce que je voulais justement vous relancer là-dessus, M. Mercier, bien sûr, les gouvernements, on peut penser... C'est évident qu'ils doivent investir davantage dans la construction de logements sociaux. Bon, au Québec et au Canada, on a une structure politique qui rend souvent compliquées les choses, alors que le logement relève de Québec, mais l'argent est à Ottawa, puis là, l'argent dit à Québec, ben si tu veux mon argent, je suis obligé de mettre des conditions. Ce que Québec dit avec raison, ben non, parce que c'est de mon pouvoir, mais bref, il y a comme une complication au niveau du système politique, mais à quelque part, ça, c'est les gouvernements, mais est-ce que la création ou l'expansion de coopératives pourrait aussi contribuer à diminuer l'ampleur de la crise?
Oui. Ce que nous, on considère comme logement social, c'est là où il y a une démocratie des locataires. Dans le cas d'une coopérative, tu as ton mot à dire parce que tu es sociétaire. Donc, tu participes à la gestion. Si tu es dans un OSBL, comme l'équerre ou handicapable ou chose, tu as un comité, tu as une assemblée générale et tu as ton mot à dire. Si tu es dans un HLM ou ce qu'on appelle les offices d'habitation, parce que le programme HLM en tant que tel est disparu, ben, tu as un comité de représentants, donc les locataires ont une démocratie participative. Nous, c'est ça qu'on met sur pied. On pense personnellement à l'association des locataires et aussi au FRAPRU dans lequel on est membre, qu'on devrait doubler le nombre de logements où les locataires ont un droit, ont un mot à dire, où la participation de la société est encouragée, pour qu'un jour, on puisse faire un peu comme, par exemple, à Vienne, où on va avoir un développement bien intégré, où même les riches vont rester en logement social. C'est qu'on change la façon dont on parle, nous, de socialisation. Tout comme on a nationalisé l'électricité pour s'assurer que tout le monde ait de l'électricité à un coût raisonnable, on devrait faire la même chose avec les parties importantes
du parc immobilier. Vraiment très, très intéressant. Midi 53, ça n'a pas d'allure. Lorsqu'on est en bonne compagnie, M. Mercier, le temps passe toujours trop rapidement. On ne pourra pas tout aborder les sujets qu'on avait prévu de le faire, mais j'y vais quand même. en quelques minutes, là, quels sont les principaux enjeux pour lesquels les locataires vous contactent à l'association? Est-ce que c'est parce qu'ils vivent des problématiques de hausse de loyer, de rénoviction, d'insalubrité? Tu sais, pourquoi les gens vous appellent et font appel à vos services?
J'agarde en général même sans, quand les gens, les locataires ont un problème relativement mineur, des fois, il y a des problèmes mineurs peuvent venir gros, ils ont besoin d'être rassurés puis d'être accompagnés. Ils ont tout le temps peur de se faire mettre à la porte.
Oui.
C'est
donc,
un constat.
À quelque part, ils ont peur aussi d'être revendicateurs auprès de faire valoir leurs droits, ce qu'on doit lire entre les lignes?
Ou, en certains cas, effectivement, parce que en réalité, moi, je dis, dans pratique, les locataires, ils préféreraient, dans 99,9999, avoir jamais de problème avec leur propriétaire. Ça fait que faire une démarche de contestation, c'est pour eux très difficile, surtout quand on est plus âgé. Là. Parler de la situation particulière des personnes âgées, qu'on reste là depuis longtemps, qu'on a une relation harmonieuse, on aimerait tout d'un coup, ben la maison est vendue, puis tout peut devenir un prétexte à l'expulsion. Les animaux.
Ouais.
Beaucoup de contacts. L'insalubrité. On peut faire par exprès pour pas réparer quelque chose, un logement. Puis les gens veulent rester, même dans des conditions incroyables. Mais donc, il y a des moyens détournés. Puis il y a aussi le harcèlement. Il y a comme le fait d'être locataire, une relation... On devrait, l'endroit où on reste, où on est dit domicile, ça devrait être le château fort. On apprend ça à l'école, le château fort, la dernière chose. Mais les gens ont l'impression de ne pas être chez eux. Mm-hmm. Quand le harcèlement est là, si le propriétaire peut rentrer n'importe quand, on en passera pour château fort, là. Le pont-levis n'est jamais levé.
Mais le propriétaire ne peut pas rater n'importe quand normalement.
Oui, c'est ça. C'est que... Puis en réalité, souvent, même, ils n'ont pas si envie de rentrer, mais ça fait partie d'une façon d'établir rapport
une relation
de force,
de
une relation de pouvoir. Et ça, c'est le principal problème. Puis peut-être juste en finissant, je disais aussi, on parlait tantôt de Ménacène, j'regarderai aussi des résidences étudiantes qui ont été privatisées à l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a un certain... Malgré qu'on devrait être positif, parler de développement, de logement social, le doubler, socialiser, on est en position défensive. Puis, il y a des propriétaires comme Ménacène qui sont appropriés, des administrateurs qui se sont appropriés les biens des locataires. Il y a plus d'endroits où on respecte les gens et il y a des universités comme Sherbrooke qui oublient sa responsabilité de fournir un logement à ces gens les plus pauvres. Là. J'ai été... Congrès du Frappu, là, on était dans les résidences de l'Université Laval, là. Ça, puis une cellule de prison, ça se sent pas mal, c'est dur pour le dos, c'est pas grand. En tout cas, je pense que si les gens en sont rendus à aller rester là, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un endroit où on paie pas trop cher, puis qu'on peut étudier.
Monsieur Mercier, merci beaucoup pour vos lumières. Malheureusement, j'avais comme un paquet d'autres questions. On n'aura pas l'occasion d'en discuter, mais heureusement, les auditeurs et les auditrices peuvent aussi entendre parler de logement à travers une émission hebdomadaire, si je ne m'abuse, sur les ondes de CFLX.
Oui, à tous les jeudis, c'est mon confrère... Qui l'anime, il m'invite quelquefois, là, mais...
votre confrère qui était aussi technicien à cette émission, Alain, me faisait le bonheur de me donner un coup de main, alors que moi, je suis né avant 1980, fait que
ah
la
oui,
technologie...
Et l'homme orchestre, la musique, l'interview...
Exactement. Ah non, il y a quelque chose... Alors, ben merci beaucoup d'avoir accepté de discuter de la journée du déménagement avec nous, c'est très apprécié.
Oui. Et ça me fait plaisir, je pense que... C'est un débat qui a intérêt à toucher tout le monde, puis à intéresser tout le monde. Puis dans la campagne électorale qui s'en vient, les politiciens ont des questions, des réponses à nous fournir.
Et on va s'assurer qu'il le fasse, M. Mercier. Ben, je vous remercie beaucoup. Et chers auditeurs, auditrices, je vais vous saluer pour l'été. Alors que c'était la dernière émission avant que votre animateur préféré, un mercredi sur deux, tombe en vacances. Alors, lors des plages horaires là qui normalement auraient été couvertes par notre émission, on va vous rediffuser les meilleurs moments ou les meilleures émissions là, depuis que nous sommes à la barre de cette édition, mine de rien, là, d'émission, pardon, mine de rien, ça remonte.